Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est David Alphand, conseiller de Paris, vice-président délégué du groupe Changer Paris avec Rachida Dati. Bonsoir.
Loïc Barrière, bonsoir.
Alors, première question, David Alphand, la France va affronter ce dimanche l'Argentine pour la finale du Mondial. Les Bleus ont remporté le match contre le Maroc mercredi soir. Une troisième étoile pour la France, cela ferait du bien au moral du pays ?
Bah, je pense que tout le monde en rêve, en effet. Mais moi, ce que je veux d'abord retenir, après cette très belle demi-finale entre deux équipes éblouissantes et tout aussi méritantes l'une que l'autre, cette image qui a été donnée à la jeunesse de notre pays. Cette jeunesse qui a besoin de modèles, qui a besoin de sources d'inspiration. Et moi, je les ai trouvés beaux, ces joueurs. Je les ai trouvés beaux dans leur attitude, à la fois dans leur combativité pendant le match, dans leur sérieux, leur abnégation, leur sens du travail à l'entraînement et dans leur fair play après le match également, parce que ils se connaissaient pour un grand nombre d'entre eux, entre ces deux grandes nations de football que sont la France et le Maroc. Et moi, je trouve que il y a une source d'inspiration très forte pour la jeunesse de ce pays. Quand parfois elle est un peu en manque de repères, et bien d'avoir des Mbappé, des Hakimi, des Ziyech, des Giroud, sans parler de notre Ballon d'Or qui aurait eu toute sa place dans cette équipe, Karim Benzema, et bien je trouve que c'est plutôt réconfortant. Et oui, c'est de nature à nous rendre optimistes et à donner de l'inspiration et de l'ambition à ce pays.
Alors, il n'y a pas eu de débordement à Paris grâce à une forte présence policière. Il y a eu quelques interpellations préventives, notamment dans les milieux de l'ultra-droite. Si la France gagne dimanche, l'ambiance sera festive. Vous espérez qu'il n'y aura pas d'incident comme on a pu le voir ces derniers jours ?
Et vous savez, moi, en tant qu'élu parisien de Paris et du 16e arrondissement plus particulièrement, je sais combien Paris a été traumatisé. Paris a été traumatisé ces dernières années par de nombreuses manifestations qui ont connu des débordements ultra violents. Vous savez, moi, j'étais dans la rue lorsque les premiers débordements violents et de casseurs à l'occasion des manifs des Gilets jaunes ont donné lieu à des voitures brûlées un peu partout autour de la place de l'Étoile, dans le 17e, dans le 8e arrondissement et naturellement également dans le 16e arrondissement. Et comme j'étais sur le terrain, si j'ose dire, j'ai vu passer autour de moi et au-dessus de ma tête des projectiles, parce que j'avais pas hésité à aller voir exactement ce qui se passait. Et la capitale a été traumatisée. Je crois que tous les élus sont très conscients de la responsabilité qu'ils ont, et je dirais aussi de la pression qu'ils doivent mettre sur les forces de l'ordre, et en particulier le préfet de police de Paris, dont c'est la mission d'assurer le maintien de la sécurité à l'occasion de ces grands rendez-vous qui sont d'abord festifs, mais qui peuvent connaître des débordements. Et raison pour laquelle, lors du Conseil de Paris cette semaine, notre groupe de Rachida Dati, c'est-à-dire la droite et le centre à Paris, nous avons interpellé le préfet de police pour l'interroger sur le dispositif de sécurité qu'il avait l'intention de mettre en place à l'occasion non seulement de France-Maroc, mais ultérieurement, y compris pour une finale hypothétique. Au moment où on l'a interrogé, on pensait encore que cette finale était hypothétique. Aujourd'hui, où on se parle, on sait que c'est une réalité.
Alors, vous êtes l'un des responsables de l'opposition à Paris. La semaine a été marquée par le dernier Conseil de Paris de l'année. Le groupe présidé par Rachida Dati, dont vous êtes le vice-président, a été très offensif, notamment sur le budget de la ville de Paris. Et cette mesure qui a pris de court de nombreux Parisiens, propriétaires de leur logement, l'augmentation de la taxe foncière, est-ce qu'Anne Hidalgo aurait pu choisir une autre option que l'augmentation de cette taxe foncière?
Vous savez, vous venez dans votre question d'évoquer l'opposition parisienne. Et je crois que chacun aura pu le constater, et en tout cas, Anne Hidalgo l'a bien constaté. Elle, les temps changent. Les temps ont changé à Paris. Il y a aujourd'hui une opposition depuis l'élection de Rachida Dati et des élus qui composent notre groupe, une opposition extrêmement pugnace, extrêmement combative et qui ne laisse rien passer. Et qui ne laisse rien passer parce que nous considérons que nous sommes là pour défendre les Parisiens dans le cadre du mandat qu'ils nous ont confié. Et le Parisien est aussi un contribuable. Et ce qui s'est passé au cours des dernières semaines et plus particulièrement des derniers jours, cette décision d'Anne Hidalgo de faire exploser les impôts à Paris, c'est une décision très grave de conséquences. Très grave de conséquences parce que ça n'est pas que les propriétaires qui vont être touchés. Naturellement, les propriétaires le sont. Ça, c'est le premier temps. Mais les locataires vont l'être également. Cette semaine, il vient d'être annoncé par les bailleurs sociaux une hausse des loyers de tous ceux qui sont logés en logement social de la ville de Paris. Et puis également, pour ceux qui sont dans le parc privé, c'est-à-dire qu'un appartement avec un contrat de location, avec un propriétaire privé, ils vont être aussi impactés, ils vont être frappés par la hausse des impôts décidée par Anne Hidalgo, parce que cette hausse de la taxe foncière, qui est une hausse considérable de 50%, nulle part ailleurs dans ce pays, on a vu une telle hausse, c'est absolument effarant, inouï, et bien cette hausse, elle va être répercutée par les propriétaires, inévitablement, sur les locataires. Tout le monde est perdant aujourd'hui à Paris, du fait de la mauvaise gestion de Madame Hidalgo.
Alors, est-ce qu'elle pouvait avoir un autre choix qu'augmenter la taxe foncière, compte tenu de l'état des finances de la ville?
Écoutez, c'est vrai que cette décision de faire exploser les impôts à Paris, on la voyait venir. On la voyait venir. Moi-même, je l'avais interpellée au mois de mars. Je lui avais dit, Madame Hidalgo, étant donné votre gestion très mauvaise et étant donné l'état des finances de la ville, vous n'allez avoir d'autre solution que d'augmenter les impôts et notamment la taxe foncière à Paris. Ça me semblait inéluctable. Nous étions au mois de mars. Savez-vous ce que Madame Hidalgo m'a répondu? Elle m'a répondu, Monsieur Alphand, il n'y aura pas de hausse des impôts à Paris et je tiens toujours ma parole. Je tiens toujours ma parole, c'est ce qu'Anne Hidalgo m'avait dit en début d'année. Eh bien, on a vu la manière dont elle sait tenir sa parole. C'est un peu comme lorsqu'elle avait promis également de ne jamais se présenter à l'élection présidentielle si elle était réélue à la mairie de Paris. Bon, évidemment, alors aujourd'hui, on est tous tributaires et on est tous victimes de cette hausse des impôts. Oui, bien sûr, il y a un autre chemin et il y avait une autre manière de gérer les finances de cette ville déjà depuis bien longtemps. Car quand Madame Hidalgo arrive, elle a une situation financière qui est relativement saine. D'abord parce que la droite parisienne avait toujours bien géré cette ville. En 2001, Paris n'était quasiment pas endetté. Puis Bertrand Delanoë, le premier maire socialiste, est arrivé et là, il a eu 3 milliards de dettes. Quand Madame Hidalgo arrive en 2014, elle a donc ses 3 milliards de dettes. Mais aujourd'hui, on en est à près de 10 milliards. C'est-à-dire que en l'espace de quelques années, elle a non seulement fait exploser les impôts à Paris, mais aussi la dette. Il y avait un autre chemin et nous n'avons fait que l'alerter depuis de nombreux mois, si ce n'est plusieurs années, sur les dérives de sa gestion financière.
Mais David Alphand, Anne Hidalgo répond que s'endetter est indispensable pour que Paris poursuive sa transition écologique, sauvegarde ses services publics et crée des logements sociaux. Que répondez-vous à cet argument ?
Ce qui est surtout indispensable pour Paris, c'est d'être bien géré et d'avoir une trajectoire budgétaire qui soit soutenable. Enfin, chacun peut bien le comprendre. Une ville, c'est comme un ménage, c'est comme un foyer, c'est comme une famille. On peut pas s'endetter au-delà du raisonnable. Parce que, vous savez, si un Parisien ou si un Francilien ou si un Français est dans une situation de surendettement, vous savez ce qui va se passer ? C'est qu'à un moment donné, son banquier va lui couper les crédits, va lui couper toutes ses ressources et lui dira « Cher monsieur, vous avez dépassé les bornes ». Bon, et il risque même de passer devant une commission de surendettement de la Banque de France. Bon, avec Anne Hidalgo, on en est là. On en est là, d'où naturellement la demande qui a été faite de mise sous tutelle financière, qui est une demande qui reste d'actualité à aujourd'hui. Parce que on ne peut pas surendetter cette ville, 10 milliards d'euros, c'est un endettement considérable, et ce qui explique d'ailleurs que Madame Hidalgo, prise de panique, n'a eu d'autre solution que d'augmenter les impôts à Paris.
David Alphand, que pensez-vous du plan de 30% d'économies à réaliser dans le fonctionnement interne de la ville de Paris, un plan annoncé par le premier adjoint Emmanuel Grégoire? En Conseil de Paris, vous avez indiqué que les dépenses continuaient pourtant d'exploser.
Ben oui, parce que les économies, Madame Hidalgo et son premier adjoint Emmanuel Grégoire en parlent beaucoup, mais on les voit pas. Et ça, c'est quand même gênant. C'est plus que gênant, parce que on aimerait bien savoir où se trouvent les économies en 2023 dans ce budget. Alors, moi, j'ai demandé à l'adjoint aux finances de la ville de Paris. J'ai dit, monsieur l'adjoint aux finances, où sont vos économies? Il n'a pas été capable de me produire la moindre note là-dessus. Et c'est curieux, parce que moi, si j'ai arrivé à faire 250 millions d'euros, croyez-moi, j'en serais fier et vous le sauriez. Je vous le dirai ce soir et je vous le détaillerai. Ben eux, ils sont incapables. Ils sont incapables de nous dire où elles sont ces économies. Donc j'ai interrogé également des adjoints de Madame Hidalgo, c'est-à-dire les gens qui sont en charge des différentes politiques publiques à Paris. Eh bien, vous allez être très surpris de la réponse, des réponses qui m'ont été apportées. J'ai interrogé l'adjointe en charge de la politique publique de l'emploi et de la réinsertion. Eh bien, je lui ai demandé où sont les économies dans votre budget. Dans un premier temps, elle savait pas. Elle a pas pu me répondre. Et puis après, elle a cherché. Et puis elle m'a dit, ah oui, ah si si, on avait un plan de formation à la reprise d'emploi par les chômeurs. Et d'ailleurs, ce plan, cette formation-là, elle marchait très bien. En 2023, on va l'arrêter. Est-ce que c'est cohérent d'arrêter des formations pour les chômeurs qui marchent bien et que du jour au lendemain, on décide de tirer un trait dessus? Et pendant ce temps, Madame Hidalgo prétend entretenir ou mettre en place un système de bouclier social en faveur des Parisiens. Mais c'est un bouclier en carton-pâte. Il n'y a pas de cohérence dans la politique de Madame Hidalgo. Et encore une fois, ce sont les plus fragiles, ce sont les plus faibles qui vont en pâtir. Parce que je vais vous donner un deuxième exemple. Vous allez voir, c'est très concret. Pour tous ceux qui nous écoutent, je pense que ça peut parler également. Parce que j'ai aussi interrogé un autre adjoint de Madame Hidalgo. Celui-ci, c'est l'adjoint qui est en charge du tourisme à Paris. Même question, je lui ai demandé où sont vos économies dans votre budget. Et lui aussi savait pas très bien comment me répondre, parce qu'il voyait pas très bien où elles étaient les économies, ce qui est quand même troublant. Et au bout d'un moment, il a fini par me dire « Ah si, si, nous avons un programme de subvention pour des familles, les aider à partir en vacances, des familles modestes ou qui sont touchées par le handicap. » Souvent d'ailleurs, ce sont les enfants qui sont en situation de handicap. Et là, l'adjoint de Madame Hidalgo m'a dit bah, « c'est cette subvention pour les familles modestes ou touchées par le handicap, nous aidions jusqu'à présent à ces familles à partir en vacances, et puis en 2023, on arrête. » Vous voyez, c'est ça. C'est ça aujourd'hui la vérité sur Anne Hidalgo et la politique qu'elle mène à Paris. C'est une politique qui non seulement va frapper les propriétaires, les locataires financièrement, mais qui en plus frappe les plus fragiles des Parisiens aujourd'hui dans cette ville.
David Alphan, les Parisiens, mais aussi les personnes qui passent la journée à Paris, se plaignent de l'augmentation de l'insécurité. Dans ces conditions, Paris vous semble-t-elle prête pour les JO et les Jeux paralympiques de 2024? On rappelle que c'est pratiquement dans un an et demi.
Vous savez, la droite à Paris est la principale force politique qui a demandé la création d'une police municipale. Pendant de nombreuses années, la droite parisienne a réclamé cette police municipale. Madame Hidalgo n'en voulait pas. On a poussé tellement fort et les évidences de la montée malheureusement en puissance de la délinquance à Paris a été tellement incontestable que à un moment donné Madame Hidalgo a fini par céder et nous lui avons imposé la police municipale. La droite, c'est une grande victoire de la droite parisienne voilà quelques mois, mais cette police municipale, elle n'est pas encore tout à fait à la hauteur de sa mission, et en particulier nous aurions souhaité qu'elle soit armée, ne serait-ce que déjà pour que les policiers municipaux soient en capacité de répondre à le cas échéant, y compris une intervention sur une action terroriste en cours, par exemple dans la capitale. Bon, et ça, pour le coup, ça n'est pas encore le cas pour la police municipale. Alors, on continue la droite parisienne avec Rachida Dati. Vous savez, Rachida Dati qui a été ancienne ministre de la Justice. Donc, je peux vous dire autant vous dire que la sécurité, c'est vraiment une de ses préoccupations fortes. Eh bien, nous continuons aujourd'hui à être extrêmement vigilants, et vous m'interrogez sur la question de la sécurité pendant le déroulement des Jeux Olympiques. Bon, je crois vraiment qu'il y a besoin de revoir un certain nombre de choses en matière de sécurité sur les grands événements sportifs. On a commencé cette émission il y a quelques minutes. On a parlé de la Coupe du Monde de foot. Bon, mais moi je me souviens qu'au mois de mai, au Stade de France, on a organisé la finale de la Ligue des Champions et ça s'est très mal passé. Et le ministre de la Justice, dans un premier temps, a voulu tout mettre sur le dos de supposés hooligans anglais. Venant de Liverpool, bon, bah, on sait bien que c'était pas ça, hein. Mais on a bien vu qu'il y avait des trous dans la raquette en matière de sécurité sur les grands événements sportifs. Et bien, ces trous dans la raquette, il faut en tirer les enseignements, parce que Paris doit être au plus haut niveau de sécurité et de maintien de l'ordre pendant les Jeux Olympiques. Et j'ajoute même que cette sécurité, c'est une sécurité dans nos rues, c'est une sécurité dans les immeubles, pour les personnes physiques, les Parisiens, les Franciliens, mais également les étrangers qui vont venir à Paris. C'est une affaire d'image pour la capitale. Et puis c'est aussi une sécurité sur nos ordinateurs, parce que on sait que les cyberattaques par les pirates de l'informatique vont être multipliés par 100 par rapport aux derniers Jeux Olympiques à Tokyo. Et ça, c'est aussi une préoccupation de la droite parisienne, raison pour laquelle nous avons interpellé à la fois Madame Hidalgo et le préfet de police sur ces questions-là. Et moi-même, j'avais encore une réunion à ce propos il y a 48 heures.
Merci David Alphan. Je rappelle que vous êtes conseiller de Paris, vice-président délégué du groupe Changer Paris avec Rachida Dati. Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.